VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique australe. Les pluies torrentielles qui ont inondé le Mozambique et le Malawi ont fait plus de 100 morts et 800 000 déplacés, selon un nouveau bilan des dégâts dus au cyclone Idai. Près de 6 000 habitations ont été détruites, plus de 140 000 personnes sont sinistrées et plus d'une centaine de milliers d'hectares de récoltes ont été détruites, selon Maputo. Le gouvernement mozambicain a placé le pays en état d'alerte rouge en raison de la poursuite des précipitations et de l'arrivée du cyclone tropical Idai, a affirmé une porte-parole du gouvernement mozambicain. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Idai devrait toucher les côtes mozambicaines près de la ville de Beira, dans le centre du pays. Au Gabon, un collectif défraie la chronique après avoir lancé un ultimatum à Libreville pour faire reconnaître la vacance du pouvoir en l'absence du président Ali Bongo Ondimba, hors du pays depuis octobre. Dimanche 31 mars, si rien n'est entrepris pour mettre un terme à la situation, nous devrons agir pacifiquement pour exiger que soit mis fin à l'imposture en cours, ont écrit fin février 9 personnalités politiques, syndicales et de la société civile, rejointes dimanche dernier par l'opposant Jean Ping. Le gouvernement gabonais, pour sa part, estime que certains Gabonais appellent à la désobéissance et à la rébellion. À la suite de la déclaration des signataires du document, le porte-parole de la présidence et aussi le premier ministre gabonais ont déclaré que le président Bongo allait bien. Au Congo-Brazzaville, les autorités appuyées par une ONG britannique, le Fonds mondial pour la nature, le WWF, veulent créer un cinquième parc national. Mais les populations riveraines ne sont pas d'accord. Le WWF est donc obligé d'organiser une consultation auprès des populations. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
C'est pour la première fois dans la création des parcs nationaux au Congo que les communautés sont directement consultées. Sont-elles d'accord ou pas de vivre dans le voisinage d'un parc national? L'idée en elle-même paraît surréaliste que les populations estiment que cette consultation n'est qu'un bluff. Ici à Swanké, au quartier Ngoman, les voix s'élèvent.
Nous aussi, ici, on a besoin de l'école, on a besoin de l'hôpital. Là, ça peut nous aider aussi dans le village aussi. Mais pour le parc, on a besoin de parc.
Plus loin au village Dia, dans le district de Sembe, le conflit homme-éléphant complique le processus de création de la réserve Messor Dia. Les populations posent leurs conditions.
Dévastation des champs, ceci, cela, ce que nous disons, nos déléances qu'on amène selon le VVF, l'État, le gouvernement. Donc il n'y a pas de suite. Avant, il n'y avait pas de parc. Nos biens sont dévastés. Aujourd'hui, si on met le parc, on va vivre comment? On va manger quoi? Moi-même, j'ai perdu 5 hectares de champs de bananiers, de jeunes cacao. Au pétiné, des maniocs détruits, donc veut dire tout ça là, donc ça fait mal au cœur.
C'est pour lever tous ces écueils que l'ONG britannique, le Fonds mondial pour la nature, WWF, organise des consultations pour expliquer l'intérêt de cette aire protégée. Un consortium d'ONG a même été mis en place pour faire le boulot. Martial Dimi de la Brain Forest du Gabon.
L'un des préalables de notre travail, c'est déjà de préciser aux communautés qu'elles ne doivent subir aucune pression, quelle que soit la source. Cette pression ne doit pas venir de nous en tant que facilitateurs et qui avons la responsabilité d'implémenter le CLIP, cette pression ne doit non plus venir des autorités locales, elle ne doit pas également venir du VVF.
Lilian Barros, du comptoir juridique junior du Congo.
Il faut qu'il y ait d'abord cette consultation-là pour que les communautés donnent leur avis ou leur point de vue en connaissance de cause. Et en même temps, que les communautés connaissent aussi quels sont les droits qui seront appliqués quand on aura mis en place l'aire protégée et quelles sont les restrictions qui vont arriver.
Les populations estiment que les autorités finiront bien par se passer de leur avis. Pourquoi alors les distraire par cette consultation? Mais Dieudonné Patrice Ekutuba Bobomela, coordonnateur de l'espace Tridoum Interzone Congo, pense le contraire.
Les études sont vraiment avancées avec les populations riveraines qui sont tout autour de la nouvelle aire protégée qui est en création. À ce niveau, on a déjà identifié les zones d'activité de ces communautés autour du parc ou bien dans le nouveau aire protégée qui vont se créer.
Pour l'heure, les débats se poursuivent et diverses interprétations émaillent le projet. processus de création du futur parc national Mesok-Dia. De retour de Soanké dans la Sangha, Arsène Séverin, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, la lutte contre les djihadistes au Niger. L'armée nigérienne a tué 33 terroristes membres du groupe djihadiste nigérien Boko Haram lors d'une vaste opération de ratissage dans la région du lac Tchad dans le sud-est du pays. C'est ce qu'annonce le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué lu ce mercredi à la télévision nationale. Selon les autorités, les affrontements de mardi 12 mars 2019 entrent dans le cadre de l'offensive déclenchée par les forces de défense et de sécurité le samedi 9 mars, soit au lendemain de la violente attaque de Boko Haram au cours de laquelle 7 gendarmes nigériens avaient été tués près de Geskeru, une commune de la région d'Ifa, proche de la frontière du Nigeria, et de l'État nigérian de Borno, berceau de Boko Haram. Pas de perte à signaler côté force nigérienne, soumis le communiqué militaire qui fait état de la confiscation de 2 véhicules, 2 motos et d'un mortier de 120 mm pris à l'ennemi. Au Mali voisin, l'armée nationale a fait état mardi de la mort de 6 militaires maliens. Leurs véhicules ont sauté sur des mines lors de 2 patrouilles distinctes dans le centre du pays. Une autre source sécuritaire évoque un bilan de 7 morts, Jean-Roger Bion.
L'armée malienne a indiqué sur son site internet que dans la matinée du mardi 12 mars 2019, 2 véhicules d'escorte des forces armées maliennes ont sauté sur des engins explosifs improvisés, faisant respectivement 2 morts à Dialoubé et 4 morts dans les environs de Ombori, dans la région de Mopti. Un peu plus tard, un autre véhicule de la gendarmerie a sauté sur une mine, tuant 3 autres soldats et non 2, a affirmé une autre source militaire. Elle évoque la mort de 7 militaires maliens alors qu'ils étaient en mission. Malgré la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, une forte présence militaire française et la création de la force militaire régionale G5 Sahel, les violences djihadistes persistent dans le pays avec 237 attaques recensées en 2018, soit 11 de plus qu'en 2017, selon l'ONU. 2 soldats français de la force Barkhane ont été sérieusement blessés dimanche dans l'attaque de leur campement temporaire près de la frontière avec le Niger. Les autorités maliennes et les forces internationales avaient espéré une baisse des violences dans le centre après avoir donné pour mort fin novembre le prédicateur radical Peul Amadou Koufa, principal chef djihadiste de la région. Mais il est vraisemblable qu'il soit toujours en vie, a indiqué lundi l'état-major français après l'apparition récente dans une vidéo d'un homme présenté comme Amadou Koufa.
Guinée-Bissau maintenant, avec les suites de la saisie record de cocaïne à Bissau le week-end dernier. On a appris qu'un collaborateur du président de l'Assemblée nationale du Niger fait partie des 4 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Plus de détails avec Yacouba Ouédraogo.
Le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale du Niger en question est Mohamed Sidi Ahmed, selon le directeur adjoint de la police judiciaire, Domingos Montero Correa. 2 Maliens et 1 Bissau-Guinéen étaient toujours recherchés hier, selon la police judiciaire de Guinée-Bissau. Dans la nuit du 9 au 10 mars, la police bissau-guinéenne a saisi près de 800 kilos de cocaïne dissimulée dans un camion immatriculé au Sénégal, la plus grande prise de drogue dans le pays depuis au moins 12 ans, selon des sources policières. Les stupéfiants avaient pour destination le nord du Mali, a précisé mardi la police judiciaire. 4 suspects, 2 Nigériens, un Sénégalais et un Bissau-Guinéen, ont été arrêtés à la suite de cette saisie à la sortie nord de la capitale Bissau. Cette saisie a eu lieu quelques heures avant les législatives dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, où l'instabilité et la pauvreté ont favorisé l'implantation de trafiquants de drogue sous la protection de hauts gradés.
Conflit en Syrie maintenant, environ 3000 djihadistes se sont rendus mardi aux forces démocratiques syriennes, les FDS, soutenues par Washington dans l'est du pays. Les bombardements ont repris de plus belle contre le dernier réduit du groupe État islamique en Syrie. Les FDS, une alliance de combattants kurdes et arabes, sont engagés depuis décembre dans une offensive contre l'État islamique avec le soutien de la coalition internationale anti-djihadiste menée par les États-Unis. Mais ces dernières semaines, la présence dans la poche de très nombreux civils, en majorité des familles de djihadistes, a freiné l'offensive. Si des dizaines de milliers de personnes ont fui l'enclave, nul ne sait encore combien de civils y demeurent encore. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook Restez à l'écoute de VOA Afrique. Oh, oh.